VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Et midi à Ouagadougou, 13h à Libreville, bienvenue à notre journal. Le président nigérian Muhammadu Buhari poursuit sa visite à Washington. À son programme aujourd'hui, des consultations avec le secrétaire d'État John Kerry. Le président Barack Obama a promis hier à son homologue nigérian le ferme soutien des États-Unis dans sa lutte contre le groupe islamiste Boko Haram et aussi ses efforts pour consolider la démocratie au Nigeria. Cher Rubin Dorsil.
À peine 8 semaines après son investiture, le président Buhari était au bureau ovale de la Maison-Blanche hier, écoutant les propos élogieux de Barack Obama sur le transfert démocratique du pouvoir, le premier au Nigeria depuis la fin du régime militaire en 1999. Pour le leader américain, c'était un vote historique.
President Buhari comes into office. With a reputation for integrity.
Le président Buhari arrive au pouvoir avec une réputation d'homme intègre et un agenda très précis visant à garantir la sécurité et la paix dans son pays.
Le président Barack Obama faisant l'éloge de son homologue nigérian Muhammadu Buhari pour sa détermination à lutter contre Boko Haram. À l'approche du départ du président Obama pour son 4e périple africain, nouvelle mise en garde du département d'État américain contre de possibles attaques terroristes au Kenya, la terre natale de son père, qu'il visitera avant de se rendre en Éthiopie. Al-Shabaab, le groupe islamiste somalien affilié à Al-Qaïda, s'est déjà rendu coupable de nombreuses attaques en territoire kenyan, dont celle d'avril contre l'université de Garissa qui a fait 148 morts, des étudiants pour la plupart. Idrissa Sedoudia.
Les entretiens que M. Obama aura à Nairobi et à Addis Abeba doivent être axés sur la lutte antiterroriste. Il arrivera au Kenya quelques jours seulement après la réouverture du centre commercial de Westgate à Nairobi, où en 2013, les Shebab ont abattu 67 personnes. Pour l'ancien ambassadeur américain William Mark Bellamy, Al-Shabaab cherche par de telles attaques à forcer le Kenya à retirer ses troupes de Somalie, à diviser les communautés ethniques et religieuses kenyanes et à provoquer des réactions excessives de la part du gouvernement de Nairobi et de ses forces de sécurité. Les Shebab semblent réaliser au moins un de ces objectifs, dit-il, en citant la campagne de répression ciblant les communautés musulmanes et les milliers de membres de l'ethnie somalie interpellés et menacés de poursuites judiciaires et d'expulsion. L'analyste du Centre pour les études stratégiques et internationales et ex-ambassadeur à Nairobi souligne également la corruption qui mine les forces de sécurité kenyanes. De son côté, Bronwyn Brutton de l'Atlantic Council insiste sur un préalable pour le Kenya, faire face à son manque de capacité et de volonté pour mettre en œuvre les stratégies antiterroristes requises. Il sera également question de lutte antiterroriste en Éthiopie, un pays considéré comme un allié clé des États-Unis face à Al-Shabaab, malgré les critiques entendues contre le régime d'Addis Abeba dans le domaine des droits de l'homme, estime Jeffrey Smith du Centre Robert F. Kennedy de Washington.
À Dakar, deuxième jour du procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré au Sénégal pour crimes contre l'humanité, entre autres. Le prévenu dit ne pas reconnaître le tribunal qu'il juge, mais une de ses victimes présumées ne cache pas sa satisfaction.
C'est un très très grand jour, un jour J, un jour tant attendu pour toutes les victimes et pour tous ceux qui nous ont soutenus, surtout nos avocats. Et je pense que c'est un jour de grande joie, c'est un jour de satisfaction morale. Je dirais plus jamais ça. Et tout le monde doit être contre l'impunité.
Les partisans d'Hissène Habré se sont également fait entendre hier à Dakar avec des cris de « Vive Habré ! » !»«
Vive Habré ! Vive Habré ! Vive Habré ! Vive Habré ! »
Le compte-rendu de notre consoeur Gaël Yomi qui a couvert le premier jour du procès Habré pour le site Séné+.
Il y a eu partisans de l'ancien président tchadien qui ont donné de la voix dans la salle pour dénoncer ce procès qu'ils qualifiaient de faux procès, d'impérialisme, de colonisation. Les forces de l'ordre ont été quelques-uns, des membres du collectif de soutien à Hissène Habré.
Et maintenant, la lutte contre l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Les 4 derniers malades d'Ebola au Libéria ont été déclarés officiellement guéris hier. Le pays se retrouve donc à nouveau avec 0 cas connu, selon les autorités sanitaires. Jacques Aristide.
Ce sont deux adultes de 24 et 19 ans et deux enfants de 10 et 9 ans, tous d'un même village au sud-est de Monrovia, la capitale, qui ont été autorisés à quitter la clinique Eloi 2 où ils avaient été admis. Le retour de la fièvre hémorragique Ebola au Liberia avait été signalé le 28 juin dernier avec la mort d'un adolescent, le premier cas depuis 3 mois. Un autre décès avait ensuite été déploré. Pour le vice-ministre de la Santé, cela montre que le Liberia est en mesure de confronter l'épidémie à tout moment. Nos médecins ont réussi à empêcher le virus de tuer les malades, a ajouté Talbot Nyensoua.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, pas de suspense au présidentiel d'aujourd'hui, boycotté par l'opposition. Le président sortant, Pierre Nkurunziza, devrait facilement remporter le scrutin et obtenir un troisième mandat. La Commission électorale nationale indépendante a ignoré le boycott et supervise l'élection comme si de rien n'était, malgré les tirs et explosions qui ont fait 2 morts dans la nuit de lundi à mardi à Bujumbura. On écoute le porte-parole de la CENI, Prosper Ntahoro Amiye, au micro de Claire Morin-Gibour.
Le matériel dit lourd et le matériel sensible. Le matériel lourd, ce sont les urnes et les isoloirs. Le matériel léger ou sensible, ce sont les bulletins de vote et le kit électoral. Tout ce matériel maintenant se trouve dans les centres de vote éparpillés dans tout le pays.
Y a-t-il plusieurs bulletins de candidats, par exemple?
Un bulletin de vote unique sur lequel se trouvent 8 candidats en compétition.
Tous les candidats de l'opposition, à l'exception d'un, ont retiré leur candidature. Comment cela va-t-il se passer?
À ma connaissance, personne n'a retiré sa candidature. Ce sont des déclarations qu'on apprend sur radio, mais nous, au niveau de la CENI, on n'a pas de preuves matérielles disant que ces gens-là se sont retirés de la compétition.
Prosper Ntahoro Amiye, porte-parole de la Commission électorale burundaise. Les États-Unis estiment que l'élection présidentielle en cours ne sera pas crédible. C'est ce que déclare un communiqué du porte-parole du département d'État américain aujourd'hui. Maintenant, l'actualité économique en Afrique avec Camille Gros-Didier.
Le Sénégal se félicite du lancement du tout premier fonds de capital risque sénégalais, Teranga Capital, lancé par Omar Cissé et Olivier Furdel. But de l'opération, promouvoir les start-up du pays en leur procurant des fonds pour que ces jeunes entreprises puissent évoluer et dépasser la phase critique du démarrage. Omar Cissé est l'ancien directeur général du CTIC Dakar et Olivier Furdel est un consultant spécialisé dans le financement des start-up et des PME africaines. Teranga Capital serait sur le point de collecter près de 3 milliards de francs CFA qui seront disponibles d'ici à 2020 pour les entrepreneurs du Sénégal. La Banque européenne d'investissement compte ouvrir des bureaux dans 5 nouvelles villes africaines, notamment Yaoundé au Cameroun et Abidjan en Côte d'Ivoire, d'ici à la fin 2016, signale l'agence Bloomberg. L'institution financière des pays de l'Union européenne dispose déjà de 6 représentations sur le continent.
La crise des migrants et demandeurs d'asile en Europe, les pays européens se sont entendus lundi pour délester provisoirement la Grèce et l'Italie de la prise en charge des demandeurs d'asile. Michel Joseph.
L'Europe offre cependant quelques 32 000 places au lieu des 40 000 requises par le premier mécanisme de relocalisation concernant des Africains, des Syriens et des Irakiens. La mesure permet de ne pas observer pour un temps les règles européennes réservant la responsabilité de la prise en charge par les pays d'arrivée des immigrants. Le commissaire européen à l'immigration, Dimitri Avramopoulos, a apprécié la mesure tout en se disant déçu sur le nombre. Et le Luxembourg, qui assure la présidence tournante de l'UE, a estimé que les pays membres devraient faire plus d'efforts. L'Italie et la Grèce sont la porte d'entrée en Europe pour 2 milliers de personnes fuyant désespérément l'Afrique et le Moyen-Orient, qui traversent la Méditerranée à bord d'embarcations de fortune.
Et pour terminer, en Israël, consultation aujourd'hui entre le secrétaire américain à la défense Ash Carter et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Au programme de leur discussion, l'accord sur le nucléaire iranien conclu il y a une semaine, accord auquel s'oppose avec ferveur le chef du gouvernement israélien. Le numéro 1 du Pentagone cherche à rassurer les Israéliens. Il a qualifié hier l'État hébreu de pierre angulaire de la stratégie américaine au Moyen-Orient. À noter que le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité lundi en faveur de l'accord nucléaire avec l'Iran. Décision qui ouvre la voie à la levée des sanctions internationales contre Téhéran. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.